L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
En librairie, il y a des libraires. En librairie, il y a des livres, des lecteurs. On y croise aussi souvent des auteurs. En librairie, il y a des rêves, des pensées, des essais, des rires, des joies, des recettes, des passions tristes ou heureuses. En librairie, il y a aussi ce qu'on ne voit pas, celles et ceux qu'on ne voit pas. Car avant qu'un livre ne soit rangé en rayon ou sur une table, il a rencontré les professionnels de la chaîne du livre. Vous écoutez l'Épluche Livre et vous vous apprêtez à rencontrer l'un de ceux qui se font discrets au service des livres.
Hey Greg, le sang. Hivernage chippé, le yo-yo Tibet, qui mange un yaourt derrière la maison. Hivernage chippé, le yo-yo Tibet, qui mange un yaourt derrière la maison. Hivernage chippé, le yo-yo Tibet, qui mange un yaourt. Derrière la maison, le yo-yo Nivette, qui mange un yaourt derrière la maison.
Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Julien Poujol. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous êtes en direct, non pas des studios, mais d'un autre lieu.
Oui, effectivement, je me trouve à Narbonne à l'occasion des rencontres archéologiques, où se trouve également un petit salon du livre où on peut proposer des ouvrages autour de l'archéologie, de l'histoire, du patrimoine. Voilà, donc c'est aujourd'hui et demain.
Super. Merci de prendre ce temps pour nous, ce temps de radio. Julien, racontez-nous quel est votre métier ou quels sont vos métiers peut-être en l'occurrence.
Oui, parce qu'effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Donc, depuis 10 ans, je suis éditeur. J'ai fondé les éditions Yovana, qui se trouve actuellement à Montpellier. Donc, éditeur, c'est ma première casquette. Donc, je cherche des auteurs, je travaille des manuscrits, je les corrige, je réalise des couvertures en partenariat avec un graphiste. Je réalise des maquettes intérieures et puis ensuite je commercialise les ouvrages.
Voilà,
et s'avère que donc j'ai... Donc c'est déjà pas mal de travail.
C'est déjà pas mal. Hein.
Et j'ai cette autre casquette de diffuseur et distributeur. Donc je suis maintenant gérant de Amalia Distribution, qui est une structure basée à Montpellier également. Et donc qui propose tout ce qui est logistique pour une quinzaine d'éditeurs. Donc on va faire l'envoi des ouvrages vers des librairies, on va s'occuper des facturations, de la gestion des stocks.
D'accord.
Donc c'est vraiment un maillon essentiel
Julien,
de la chaîne.
Je vous coupe, excusez-moi, il y a un petit peu de vent.
Oui,
est-ce que
d'accord.
C'est... Voilà, je sais pas, je suis désolée, c'est pour qu'on vous entende le mieux possible, parce qu'on a mal entendu donc, le rôle par rapport à Villa Amalia, ou Amalia Diffusion Distribution. Je connais un tout petit peu, puisque je peux travailler avec vous, j'ai cette chance-là en tant que libraire. Donc c'est une maison donc Diffusion Distribution en Occitanie. Je vous laisse nous refaire la petite présentation.
Oui. Donc effectivement, Amalia Distribution, basée à Montpellier, va proposer des services finalement de logistique à une quinzaine d'éditeurs. Ça va être la gestion des stocks, mais aussi et surtout l'envoi des commandes aux libraires, la gestion des facturations. Donc voilà, ça c'est vraiment un maillon essentiel du livre. Et puis à côté de ça, il y a une nouvelle association qui s'appelle Villa Amalia, qui est une structure de relations libraires, également à Montpellier. Là, l'idée, ça va être de faire tourner des commerciaux un petit peu partout en France pour faire découvrir les ouvrages de la quinzaine d'éditeurs qui sont nos adhérents, un petit peu partout, que ce soit à Paris, en Bretagne, en Alsace et également donc, dans le sud de la France. On a des représentants qui ils vont essayer de faire jouer leur verve et leur connaissance du livre pour inciter les libraires à donner leur place aux éditeurs indépendants. Et on sait que c'est vraiment à la fois quelque chose de difficile et d'essentiel, tant il y a de livres publiés en France quasiment tous les jours.
Oh oui, ô combien d'essentiel. Je reviens un petit peu sur cette notion de chaîne du livre que nous n'avons pas beaucoup encore abordée dans cette émission. Donc, un livre. Pour le fabriquer, il faut bien sûr un auteur. Jusque-là, on est OK. Un auteur, une autrice. Cet auteur, cette autrice va trouver un éditeur. On l'espère pour lui. Ensuite, cet éditeur va prendre sur lui de publier, c'est-à-dire de rendre public le texte et de faire en sorte qu'il arrive dans les mains des lecteurs. Et avant qu'il arrive dans les mains des lecteurs, donc forcément, vous avez l'imprimeur. Vous avez aussi donc la distribution qui vraiment va s'occuper physiquement des stocks, physiquement des colis, pour ensuite envoyer sur les transporteurs qui vont les livrer en librairie. Voilà, ça c'est une partie du chemin. C'est la partie physique, va-t-on dire. Puis nous avons la partie promotionnelle, donc qui s'appelle la diffusion, qui est gérée ou non par l'éditeur, tout comme la distribution. Ça dépend des groupes, ça dépend des organisations, ça dépend de la taille des maisons d'édition. Et pour une bonne diffusion, il faut, comme vous le disiez, de bons représentants. Donc ce sont des représentants commerciaux spécialisés chez les éditeurs dont ils ont le catalogue, dont ils défendent le catalogue. Ils ne viennent pas le défendre auprès des lecteurs, mais auprès des libraires, qui eux, très professionnellement, choisiront le meilleur assortiment. Donc un assortiment, c'est le détail des livres en librairie, pour les proposer à leurs lecteurs, leur clientèle. J'ai bien résumé ?
Oui, tout à fait. Voilà. Exactement, oui.
Donc c'est quand même des notions assez importantes. Ce sont des métiers qu'on ne connaît pas si on ne fait pas partie du monde du livre. Quelles études, Julien ? Quel parcours professionnel pour en arriver là ?
Alors il y a plusieurs possibilités. Pour ma part, j'ai réalisé d'abord des études en sciences politiques. Et vraiment, ça m'a pas mal aidé dans le monde du livre par la suite, parce que tout simplement, c'est une formation très généraliste où on touche un peu à tout, sciences économiques, sciences sociales, histoire notamment, et littérature, philosophie aussi. Mais depuis à peu près 15-20 ans, il y a des master éditions notamment. Donc moi j'ai réalisé également un master édition après mes études de sciences politiques, ça m'a beaucoup aidé, notamment sur l'aspect, on va dire, technique du métier, pour prendre en main certains logiciels, avoir un certain réseau également, et puis découvrir tous les rouages de cette suite du livre qui n'est pas forcément très simple à aborder. Voilà, donc je ne pourrais que trop conseiller les master éditions, il y en a un à Montpellier notamment.
Tout à fait, il y a un très bon master édition à Montpellier. Comment s'organisent vos journées avec vos trois casquettes ?
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que mes journées sont évidemment très variées. Disons que j'organise plutôt mon emploi du temps de manière mensuelle. Tous les mois, je sais qu'il va y avoir des bilans à faire pour mes éditeurs côté distribution, pour qu'ils sachent combien d'ouvrages ont été vendus et qu'ils aient un suivi précis par rapport à tout ça. Il va y avoir également toute une brique, on va dire, qui consistera à prendre des rendez-vous auprès des libraires pour le mois suivant ou le mois d'après, on va dire, donc anticiper les tournées à venir. Et puis toujours, tous les mois aussi, avoir un œil sur le projet éditorial en cours. Alors pour ma part, chez Yovana, je n'ai pas énormément de projets par an, j'en ai souvent deux ou trois. La plupart du temps, je n'ai qu'un projet en cours et ensuite je le clôture avant d'en commencer un autre. Mais il y a toujours quelque chose à faire avancer, que ce soit la maquette, la couverture, le résumé, etc. Voilà.
Très bien. Un projet en cours, comment débutent les projets éditoriaux ?
Eh bien, déjà par le choix d'un manuscrit, il faut que ce soit vraiment un coup de cœur, surtout pour un éditeur indépendant comme moi qui a donc plus de projets. Il faut vraiment adhérer au maximum au projet en question, en sachant qu'on reçoit énormément de manuscrits, on en reçoit à peu près une dizaine par mois. Donc évidemment, ça fait un petit pourcentage d'acceptation, on va dire. La plupart du temps, j'essaie de me faire conseiller par des gens dont j'apprécie le goût littéraire. Ça peut être des auteurs déjà présents dans la maison d'édition ou des auteurs qui font partie de la maison d'édition que j'apprécie. Donc j'aime bien avoir un intermédiaire, un entremetteur en quelque sorte, hein, qui va me pousser à aller vers un projet, voilà.
D'accord, très bien. Donc ça fonctionne quand même un peu au feeling, un peu au coup de cœur, si j'ai bien compris. Oui. Il y a quand même ce côté-là. Comment on peut justifier ces choix éditoriaux en tant qu'éditeur quand on parle de feeling et de coup de cœur? Je pense notamment, moi c'est une question qui me taraude depuis quelques mois en tant que libraire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'auto-éditent.
Oui.
Voilà, parce qu'ils ont ce côté un peu grinçant, grincheux. L'éditeur m'a refusé alors que mon texte est très bien. comment vous réagissez par rapport à ça?
C'est vrai que c'est une question importante actuellement dans cette chaîne du livre, cette auto-édition qui se développe. Moi, je dirais que c'est important quand même de passer sous les fourches codines d'un éditeur parce que c'est un premier regard avisé. Qui va apporter un avis professionnel sur un manuscrit. Et quand je dis avis professionnel, cela veut dire qu'il aura, il aura la possibilité de vous dire en tant qu'auteur si jamais il y a des longueurs, par exemple, dans votre histoire, s'il y a pas mal de choses à améliorer au niveau de la narration, la structure de la narration, la façon de présenter les personnages, etc. Et puis l'éditeur, il a aussi et surtout le regard a posteriori, c'est-à-dire que lui, il sait si un ouvrage pourra ou non trouver son lecteur. Il peut se tromper, évidemment, mais il a une idée plus précise que l'auteur parce qu'il connaît les libraires, il les pratique depuis longtemps, et donc il a, on va dire, ce regard sur le marché du livre en général. Et vraiment, moi, c'est ce que me disent mes auteurs. Ils me disent que le partenariat avec l'éditeur, la plupart du temps, va améliorer leur projet. Simplement parce que c'est un regard extérieur professionnel.
Alors, le partenariat améliore le projet, pardon, vous disiez?
Oui, tout à fait, parce qu'il s'agit d'un regard professionnel et le simple fait d'avoir un deuxième regard sur le projet va l'améliorer.
Très bien. Merci beaucoup, Julien. Je demande souvent à nos invités de choisir un morceau de musique. Je crois que vous n'avez pas fait exception à la règle. Qu'avez-vous choisi de nous faire écouter, de partager aujourd'hui, Julien?
Alors, je vous propose le titre « Opaline » de Novo Amor. C'est une chanson qui m'accompagne souvent lorsque je travaille. C'est une chanson qui détend, je trouve, avec une superbe voix un peu aiguë. Et puis en plus de ça, ça devient un peu plus rythmé au fil du morceau. Donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal d'ingrédients excellents dans ce morceau-là.
Allez, on écoute.
Shaking you on the form and naming with the crack sound of my tooth crumbles. It was all so complicated. I didn't mean to say it out loud anyway. Then I think I should go. Exaggerated. Heart is breaking, I can't overstate it. How should I be feeling so from the very ceiling? It's all coming down. And I feel I should care, but I don't mean to. It's all from the very ceiling. It's all coming down. And I feel could have said I was feeling low, but I'm here just to hold your coat. I've been thinking I could stay at home. It was all
Nous sommes de retour en compagnie de Julien Poujol, éditeur chez Yovana et président de la maison de diffusion-distribution Villa Amalia. Julien, parlons sérieusement pour cette deuxième partie d'émission. Vous avez évoqué le terme marché du livre. Parlons chiffres. Comment se gèrent vos entreprises ?
Ah là là, c'est difficile comme question. Et oui, c'est des métiers passion, donc forcément, il ne faut pas s'attendre à gagner énormément d'argent, à avoir énormément de revenus. On essaie souvent déjà d'amortir les projets, de ne pas perdre d'argent.
C'est déjà bien.
Et ensuite, évidemment, alors ce qui est intéressant dans l'édition, c'est que il peut y avoir un projet qui va pouvoir sauver 4 ou 5 autres projets. C'est-à-dire que les succès sont assez variables. Souvent, il va y avoir un livre dans l'année qui va un petit peu sauver les autres. C'est un petit peu des paris. Voilà, souvent, il faut se dire ça, il faut être persévérant et se dire qu'au bout d'un moment, il y a un ouvrage qui va nous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau quand la période est un peu difficile. Après, oui.
Comment vous arrivez à anticiper ça ? Je suppose qu'au départ d'une maison d'édition, vous établissez un business plan et qu'ensuite, au quotidien, vous avez certainement un tableau de bord comptable, des prévisionnels. Comment ça fonctionne, ça, comme ou ça ne s'anticipe pas, peut-être ?
Alors, on essaie d'anticiper au maximum, effectivement. Et c'est important de dire aux auditeurs que éditeur, effectivement, c'est un métier où il faut aimer les lettres, mais aussi les chiffres, notamment les tableurs Excel, ou alors des logiciels pro, ce qui est encore mieux. Mais c'est vrai que moi j'adore jouer avec les chiffres et puis essayer d'être le plus précis possible sur tout ce qui est prévisionnel. Donc, dès la sortie, on va dire 6 mois avant la sortie d'un livre, dès qu'on commence un projet, on va essayer de rentrer les chiffres les plus précis possibles sur toutes les dépenses que l'on va être amené à sortir, que ce soit l'impression, le graphisme, la page,
que ce soit l'impression, vous disiez, et ensuite le vent a coupé votre voix.
Pardon. Le graphisme, la maquette intérieure, et puis la publicité, la communication, etc. Donc ça va être des postes essentiels. Et puis au niveau des produits, il va falloir aussi anticiper quels canaux de vente vont être les plus porteurs pour un livre en particulier. Est-ce que ça va être les ventes directes sur le site internet ? Est-ce que ce seront les libraires, les ventes en salon ? Chacun de ces canaux-là apporte à ses spécificités, on va dire. Il va y avoir le pourcentage libraire à payer, évidemment, pour nos partenaires libraires. Donc, tout ça s'anticipe au maximum, en effet, oui.
Très bien. Donc, on comprend assez facilement comment vous anticipez les frais. Ça paraît assez clair, mais comment vous anticipez les ventes et notamment les stocks parce qu'un livre, ça se publie. Et vous ne pouvez pas publier à la demande systématiquement. Je pense que ça serait trop onéreux, si je comprends bien. Donc, vous allez publier un livre par quantité. Comment vous gérez cette gestion de stock, justement ?
Alors, la vente à la demande, ça se fait de plus en plus. Je ne m'y connais pas très bien de ce côté-là, mais il semblerait que ce soit de plus en plus viable. Malgré tout, de ce que j'ai vu moi, les éditeurs qui passent par la vente à la demande proposent des livres objets qui ne sont pas forcément très satisfaisants au niveau de l'esthétique, au niveau de la qualité du papier. Et on sait très bien que c'est vraiment essentiel pour développer une marque qui imprime entre guillemets en librairie. Donc moi effectivement je ne fais pas de vente à la demande et j'essaie d'anticiper au maximum le meilleur tirage. Ça va être souvent entre 600 et 800 exemplaires. C'est important d'ailleurs de ne pas faire moins parce qu'il y a un coût unitaire qui va baisser. Plus on fait de livres, moins le coût unitaire est élevé. Après, on essaie de ne pas faire de pilonnage, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas mettre de livres au rebut. C'est un enjeu écologique essentiel. Mais c'est vrai que la plupart du temps, voilà, je vais essayer d'imprimer 600-700 ouvrages pour faire baisser le coût unitaire.
D'accord. Je vous embête encore un tout petit peu avec cette partie pas marrante. Vous disiez que vous vendez sur Internet aussi.
Oui, effectivement.
Alors, comment ça se passe, ça, au regard des librairies, notamment ?
Alors, moi, en tant que diffuseur-distributeur, j'autorise mes éditeurs à vendre sur leur site internet. Dans notre contrat, il y a cette exception qui est faite à l'exclusivité théorique que l'on a sur leurs ouvrages. Mais ce que je réalise, ce que je vois auprès de mes confrères éditeurs indépendants, c'est que ces ventes-là sont assez limitées. Personnellement, c'est à peu près 2 ou 3% de mes ventes qui passent par le site internet. Ce qui est un petit peu moins anecdotique, ça va être les ventes en salon. Mm-hmm. C'est important de rencontrer les lecteurs en direct qui ne vont pas forcément connaître la marque éditoriale que nous promouvons, parce qu'en librairie, des places sont chères, vous le savez.
Oui.
Donc les salons, c'est important.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces infos un petit peu techniques, mais il faut savoir un petit peu rentrer dans la technique des choses de temps en temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des métiers en diffusion-distribution ?
Oui. Alors, en distribution, il y a un métier essentiel, ça va être celui de préparateur de commandes. Mm-hmm. Donc nous, on a deux espaces de stockage, un à Montpellier et un à Paris, parce que bon, la France est très jacobine, et donc tout se passe à Paris. Oui. Il y a ce fameux GIE Prisme qui va permettre de massifier les commandes, et ça se passe en région parisienne. Donc nous, on a un préparateur de commandes là-bas qui tous les matins, par mail, va avoir toutes les commandes qui ont été passées la nuit et la veille. Il va les préparer et les mettre à disposition de Prisme ou des coursiers parisiens pour ensuite que ce soit dispatché. Donc ça, c'est en distribution. Et puis en diffusion, ce seront les représentants qui seront les plus importants. Mm-hmm. Les représentants qui donc font des tournées en librairie. J'en fais partie. Et donc, ce métier-là, ça va être prendre des rendez-vous auprès des libraires, essayer d'optimiser sa feuille de route pour faire le moins de kilomètres possible, et évidemment avoir bien lu des ouvrages, les argumentaires, et essayer de trouver, on va dire, les mots-clés et les phrases qui vont permettre de mettre en valeur du mieux possible les ouvrages en question.
Là aussi, ça fonctionne quand même. Le représentant a la liberté de défendre un catalogue. Donc oui, il y a des contrats, bien sûr, mais j'ai remarqué, moi, en tant que libraire, je peux faire confiance à mes représentants, car ils vont me dire si vraiment il ne faut pas jouer ce titre, pour telle ou telle raison. Donc mm-hmm. C'est-à-dire, il est moins bien qu'attendu, à la lecture, il y a des faiblesses, ou ça ne correspond pas du tout au lieu de vente, par exemple. Donc là aussi,
oui,
il y a une... Ce sont des commerciaux, mais pas comme les autres. Ce sont des commerciaux impliqués émotionnellement, humainement, dans ce qu'ils vendent.
Oui, vous, en tant que libraire, je sais que vous savez trier, entre guillemets, entre les représentants qui vont vous pousser à faire des mises en avant que vous ne souhaitez pas ou qui ne fonctionneront pas, et ceux qui sont honnêtes et qui, en effet, vous connaissent et savent quel ouvrage pourra ou non fonctionner. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on veut être dans une relation de long terme avec les libraires. Donc, à mon avis, les mises en avant trop poussées, ça peut fonctionner une fois ou deux, et ensuite le libraire s'en rend compte et il perd la confiance, donc voilà. C'est pas une bonne idée sur le long terme.
C'est ça. Donc ce sont des métiers tous très différents, mais tous avec un côté passion. Il faut aimer l'objet, il faut aimer le travailler, même lorsqu'on est dans la distribution et qu'on fait beaucoup de cartons, on fait des cartons de livres, donc ce n'est pas rien, ce ne sont pas des céréales, ce ne sont pas des piles, ce sont des livres.
Oui, c'est ça.
Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Pas spécialement, mais effectivement, oui, vous mettez en avant l'importance du livre-objet, et vous avez tout à fait raison, surtout pour l'édition indépendante, c'est important d'avoir une marque reconnaissable et donc des couvertures reconnaissables.
Mmh. Ouais. Alors, on a encore quelques petites minutes avant la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre actualité, Julien ?
Oui. Alors, au mois de novembre, il va y avoir une sortie poche, puisqu'on a démarré une collection poche l'an dernier chez Giovanna. Mm-hmm. Il s'agira de l'ouvrage d'une Montpelliéraine qui s'appelle Hélène Honora. Le titre s'appelle N'oublie pas Irma. Et donc, c'est un roman qui se déroule en Indonésie, à Jakarta. Mm-hmm. On peut appeler ça un thriller. Il va y avoir une enquête autour d'un meurtre se déroulant à Jakarta. Et cette histoire va nous permettre de balayer toute l'histoire de l'Indonésie au fil du XXe siècle.
Très bien. Hélène Honora, qui connaît bien son sujet, non ? Qui a vécu longtemps à Jakarta, si je ne me trompe pas.
Alors, Hélène Honora a vécu en Malaisie et au Sri Lanka notamment. Et donc, elle a eu l'occasion de découvrir l'Indonésie par le biais, effectivement, de ces morceaux de vie qu'elle a vécu en Asie, oui.
Bon, super, un super titre. Je crois aussi qu'il y a une actualité autour des stands d'héros. Est-ce que... Mais alors, je connais mal. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ?
Oui, en effet. Donc, c'est via des stands d'héros que je me trouve actuellement à Narbonne, à côté de la cathédrale qui est en train de sonner midi. Et donc, héros, c'est une association, donc éditeur de la région Occitanie, c'est un acronyme. C'est une association qui a décidé de mutualiser sa présence sur des salons, notamment en région, pour permettre de faire découvrir la biodiversité de la région, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne savent pas que tous les éditeurs ne sont pas parisiens. C'est un projet qui est très porteur, qui dure depuis 4 ans, que je développe au sein de cette association. Il y a donc les rencontres archéologiques de Narbonne ce week-end, du moins jusqu'à demain soir. Et ensuite, il y aura les rencontres du papier et du livre le week-end du 16-17 novembre à Toulouse. Voilà.
Très bien. Est-ce que, si les cloches ont terminé de sonner midi, heure importante s'il en est, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller pour terminer cette émission ?
Oui. Alors, je souhaitais vous parler d'un livre de la rentrée littéraire qui s'appelle « Bien-être » de Nathan Hill, que j'ai dévoré, même si c'était un petit pavé de 700 pages tout de même. Alors c'est un auteur américain, et alors moi déjà ce qui me plaît souvent dans la littérature américaine, c'est qu'ils osent, on va dire, des fresques un petit peu très 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 larges et qui permettent d'avoir un aperçu global de la société. Et donc je trouve que c'est des projets qui ont beaucoup de souffle. Et j'ai retrouvé un peu du style de Philip Roth dans Nathan Hill. Donc moi qui suis un grand fan de Philip Roth, voilà, je saurais que trop le conseiller aux autres fans de Roth.
Vous aimez vous aimez la littérature américaine ?
Oui, en général, Jim Harrison également. Ouais. Et oui, ce qui est vraiment intéressant dans ce roman, c'est qu'il va se moquer de notre propension, nous occidentaux, on va dire, hein, à toujours essayer de se perfectionner coûte que coûte. Et il nous montre à quel point ce besoin de perfectionnement permanent va créer de l'anxiété, du stress et du malheur, tandis qu'on recherche... Vraiment le bonheur, me semble-t-il. Donc, voilà, bien-être, c'est vraiment très grinçant comme ouvrage et très pertinent.
Super. Donc, on termine cette émission sur des notions philosophiques, puisque la philo est la recherche du bien et du bon. Donc, Bien-être de Nathan Hill, c'est dans la collection du Monde entier aux éditions Gallimard. C'est le titre conseillé par Julien Poujol, qui a pris le temps aujourd'hui de nous raconter son quotidien d'éditeur, de diffuseur. Et nous vous remercions, Julien. À très
bientôt.
Merci
beaucoup pour l'invitation.
Merci. Au revoir, chers auditeurs.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.